Bonjour, bonjour et bienvenue dans Questions Politiques. Merci d'être fidèle au rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde, de notre partenaire et de France Info. Notre invité aujourd'hui, jusqu'à 13h, il a théorisé il y a quelques années l'ère du peuple et la révolution citoyenne et il prolonge sa réflexion dans un livre qui vient de paraître. Un livre de combat où il analyse, où il décrit l'émergence de ce qu'il appelle un peuple humain. Il nous expliquera dans un instant sa définition d'un intérêt général à l'échelle de l'humanité, ce que ça implique également pour l'action de son mouvement, celui des Insoumis. Question politique est en direct avec le président du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale et député des Bouches-du-Rhône, Jean-Luc Mélenchon. Quelles sont les grandes lignes et la stratégie de sa campagne pour l'élection présidentielle? Que pense-t-il du climat politique en France, de la désunion de la gauche? Comment s'opposer en même temps à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen? Voilà quelques-unes des questions que nous lui poserons pour intervenir l'application France Inter et les réseaux avec le hashtag #QuestionPol.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Bonjour Jean-Luc Mélenchon.
Bonjour.
Le déconfinement se poursuit. Nous avons aussi de nombreuses questions économiques, sociales, la taxation des multinationales qui vient de s'inviter dans l'actualité. Mais autour de moi, pour vous interroger, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour Ali. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour à tous.
Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali. Bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Karine qui a préparé votre portrait, monsieur Mélenchon. Nous le découvrirons ensemble tout à l'heure. Aïe. Vous n'avez pas encore été piqué, pas encore même été vacciné.
Ça vient.
On parlera tout à l'heure du contenu de ce livre « Député du peuple humain », mais pour commencer, vous êtes député de la Nation, Jean-Luc Mélenchon. Oui. En un mot, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de se revendiquer député du peuple humain ?
Qu'il y a un intérêt général humain, quelle que soit sa nationalité, et que maintenant c'est prouvé. Avant, non, pendant un siècle et demi, on s'est bien pouillé avec ceux qui disaient « Mais non, qu'est-ce que vous racontez ? L'égalité, ça n'existe pas. Il y a des petits, des grands, des gros, des maigres. » Et on en déduisait même qu'il y avait des gens dont la forme du crâne ou la couleur de peau les distinguait les uns des autres. Maintenant, on sait qu'on est tous logés à la même enseigne quand on respire de l'air pourri, qu'on boit de l'eau qui n'est pas potable, que la forêt disparaît. Donc nous sommes bien une seule et même espèce qui, quelles que soient nos différences individuelles, est reliée par un intérêt général. Maintenant, comment traite-t-on cet intérêt général ? Eh bien, depuis l'endroit où on se trouve et où on peut prendre des décisions. Voilà pourquoi, aujourd'hui, c'est la nation. Je suis à la fois député du peuple français, et non pas député de Marseille, parce que des fois, on me dit « vous êtes député de Marseille ». Pas du tout,
non,
je suis député du peuple français, élu à Marseille. Et je voudrais être, j'essaye d'être député du peuple humain, c'est-à-dire chaque fois qu'un problème se pose à mon pays, j'essaye de le régler en me disant « qu'est-ce qui serait bon pour tout le monde ?» Voilà. Je ne dis pas que j'y parviens tout le temps, mais en tout cas, j'essaye.
Et voilà les grandes lignes. En tout cas, le déconfinement se poursuit, les indicateurs sont au vert. Est-ce que pour vous, le pire est derrière nous? Avant de parler des conséquences économiques et sociales, est-ce que vous regardez cette séquence que nous avons traversée, qui n'est toujours pas complètement terminée au
passé? Non, elle est loin d'être terminée. Bon, je suis comme tout le monde. Je respire mieux. On avait besoin de cette respiration. En plus, il fait beau de temps en temps. On se retrouve à des terrasses de café. Tout le monde, d'ailleurs, a pu vérifier la centralité du bistrot dans la civilisation française, parce que c'est vraiment l'institution de la socialisation. Je dis ça avec des grands mots, enfin, c'est bien agréable.
Et sans trahir de secret, vous en venez, d'ailleurs, du bistrot.
Pardon ?
Sans trahir de secret, vous en venez, vous y étiez il y a quelques minutes, au bistrot, en face de la maison d'arrêt.
Fervent. Alors, j'y ai bu un café tout à l'heure, la fois d'avant, les fraises. Et je ne m'explique pas autrement que par cette espèce de jubilation qu'on ressent sans savoir y mettre des mots, qu'il y ait eu 1,5 million de personnes pour me regarder boire un lait fraise, et j'ai dit ce sont des plaisirs simples. Eh bien, je crois que nous sommes tous amateurs de plaisirs simples. Pour le reste, je voudrais quand même qu'on ne perde pas de vue la réalité, elle est cruelle. Et tout à l'heure, j'ai lu que monsieur le maire disait « il n'y a pas eu de casse sociale ». Enfin, oui, est-ce qu'il vit ce gars ? Depuis le début de l'année, il y a eu 1000 plans sociaux. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Donc, il faut quand même revenir dans le domaine de la réalité. La pandémie n'est pas terminée. Des gens continuent à être contaminés. On annonce des variants. Donc, nous ne sommes pas débarrassés de l'obligation de réfléchir.
Alors, Jean-Luc Mélenchon, manifestement, le risque pris par Emmanuel Macron de déconfiner ou de lâcher un peu la bride, qui a été beaucoup critiqué à l'époque. Est-ce que vous considérez que finalement, c'était le bon choix ? Et deuxièmement, je voudrais savoir... Pourquoi vous n'êtes pas vacciné ?
Pourquoi je
vous
suis pas.
Vous n'êtes pas vacciné, ça serait pas une précaution nécessaire.
Non, mais je m'empresse. Je vois que les deux questions ont un contenu commun. Mais bon, c'est pas mon rôle, moi, de faire des compliments au gouvernement. C'est un rôle de journaliste.
Ah non, mais je sais, c'était juste. Est-ce que
vous
pensez que
moi, je m'occupe juste de vous dire à chaque étape ce que je crois bien ou pas bien, ce qui pourrait être utile. J'ai essayé tout le long de dire des choses comme ça. Prenons un exemple. Quand on a déconfiné. Et qu'on a dit aux enfants qu'il fallait qu'ils retournent à l'école, je trouve que ce qui n'a pas été fait, c'est de mettre dans toutes les salles de classe des purificateurs d'air, qui est une machine assez simple. Il y a, je crois, une dizaine d'entreprises en France qui fabriquent ça, et ça aurait été plus intelligent que de dire faut ouvrir la fenêtre.
Et vous étiez même venu nous en parler ici même.
Alors, et ainsi de suite, je pourrais comme ça vous dire voilà comment je crois qu'il faudrait déconfiner. De la même manière, Monsieur Macron s'est opposé absolument à la licence libre sur les vaccins, qui est le seul moyen de faire en sorte que tout le monde soit vacciné. Moi, j'ai proposé, je ne vais pas dire « je » tout le temps, mais ça se trouve comme ça, que dès le mois de mars, j'ai dit « mais il faut qu'on fasse la licence libre, je ne l'avais pas inventée ». C'était des médecins qui disaient ça, en disant une chose qui m'a paru de bon sens, « plus vous vaccinez de monde, moins vous avez plus vous avez de chances qu'on finisse par en sortir, à condition qu'il n'y ait pas de variant ». Alors, je pourrais continuer vous dire « je trouve stupide qu'on n'ait pas interdit séance tenante les élevages intensifs de visons. Il y a des pays qui les ont interdits. Pourquoi ? Parce que les élevages intensifs sont une source de zoonoses, c'est-à-dire de passage des virus, des animaux aux êtres humains. Et tout le monde sait ça. Il n'y a pas un seul pays qui a pris une disposition contre les élevages intensifs.
Mais
conclusion,
final,
il y aura de nouvelles vagues. Oui. Vous vous souvenez, Madame Saint-Cricq, c'est ici que j'avais expliqué qu'il y aurait une deuxième vague.
Oui, oui,
j'en
oui,
ai
oui.
pris plein la tête. Hein. Bon, je m'en fiche, ça s'est trouvé que c'est comme ça. Donc je vous dis qu'il y aura maintenant et dorénavant des pandémies à intervalles très réguliers. Voilà,
bon. Mais vous-même,
alors faut s'y préparer quoi.
Pourquoi pas vacciner justement ? Non mais vous pourriez vous y préparer vous-même en vous faisant vacciner.
Oui, bah ça s'est trouvé que ça s'est pas fait, mais c'est pas plus que ça. Je suis pour le vaccin, je crois à la science. Je sais que ça me sépare de quelques-uns, y compris de mes proches qui ont un petit recul critique à l'égard de Prométhée et du progrès technique, mais pas moi. Moi, je crois à la science. Donc, je me ferai vacciner. Il n'y a aucune intention politique de ma part. Sinon, peut-être que je suis pas aussi méthodique pour m'occuper de moi que je le suis pour m'occuper des autres.
Françoise Fresno, puis Karine Becker.
Je voulais vous interroger sur ce que change la pandémie. Vous dites dans votre livre, au fond, le capitalisme a fait son temps, et en même temps, on l'a vu quand même évoluer. On a vu, par exemple, quoi qu'il en coûte en France, on a vu une sorte de planification vaccinale qui a été faite et qui a été menée. On voit aujourd'hui l'idée d'un impôt minimal sur les sociétés multinationales et notamment sur les sociétés numériques. Donc, est-ce que vous pensez pas que le capitalisme est capable d'évoluer, de se transformer au regard de la crise climatique ?
Alors, je vais distinguer deux aspects à votre question qui, je crois, touchent à quelque chose de fondamental. Il est clair que nous voyons, je commence par dire ça, la fin d'un cycle. Les décisions de Monsieur Joe Biden, le président des États-Unis d'Amérique, donnent un point d'appui à des gens comme moi considérable, dont on ne pouvait même pas rêver il y a encore deux ou trois ans. Quand ils décident d'un impôt mondial, quand ils décident de distribuer de l'argent, c'est quasiment l'argent hélicoptère, il envoie un chèque de 1 400 $ à chaque Américain, il pose des conditions incroyables à toutes les entreprises pour avoir droit à une aide, et puis les types disent « ah ben c'est normal, c'est eux qui payent, donc c'est eux qui décident ». Et donc tout ça, ce sont des choses que, le moment venu, et si j'en ai la responsabilité, je transposerai en France. Monsieur Biden signe la fin d'une époque. Le pays dominant du capitalisme est en train de tourner la page du néolibéralisme.
Et ça, vous le saluez ?
Ah ben, bien sûr. Ben, c'est
enfin,
extraordinaire. Attendez, on vient de passer 20 ans à ramener à contre-courant.
Qu'un marxiste applaudisse le président du pays symbole du capitalisme. Qu'un marxiste applaudisse le président de la principale puissance capitaliste de la planète, avouez que ça peut surprendre.
Non, ça surprend que ceux qui ne comprennent pas le marxisme. Parce que, si vous regardez bien ce que dit Karl Marx lui-même, il dit que le capitalisme est une grande force de développement. Et Lionel Jospin avait eu une très belle formule, il avait dit « oui, c'est une très grande force, mais c'est une force qui ne sait pas où elle va ». Eh bien, je vais vous dire, elle ne sait toujours pas où elle va. Alors là, pour l'instant, il répare la casse. Mais le système est condamné pour une raison qui n'a rien à voir avec la morale, qui moi me préoccupe, mais je comprends que ça ne préoccupe pas tout le monde. Que le système de l'exploitation de l'homme par l'homme paraît satisfaisant à certains qui pensent qu'après tout, les loups mangent les brebis et pourquoi pas l'homme exploitant l'homme. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que le capitalisme, Madame Fressoz, pour répondre bien à votre question, est incapable d'assumer la crise qui arrive. Pourquoi ? Parce que c'est une crise qui vous oblige à raisonner à partir de l'intérêt général. Quand l'axe de la Terre, quand le tapis roulant du Gulf Stream ralentit, quand l'eau de mer monte, vous ne pouvez pas dire, bah, écoutez, on s'en fout pendant ce temps-là, chacun fait ce qu'il veut et produit autant qu'il veut et ce qu'il veut. Si on pardon, Madame Fraisseuse, mais si on continue à balancer du plastique comme avant dans la Méditerranée sous couleur de relance et de croissance, si on continue comme avant à dire à Monsieur Mélenchon, ne cassez pas les pieds avec le glyphosate, parce que c'est pas vous qui allez arracher l'herbe, etc., ben, ça, c'est ce que nous disent. Et c'est le moteur du capitalisme, c'est ça. C'est pas la libre entreprise. Si c'était que cette liberté-là, on n'en discuterait pas. C'est l'irresponsabilité sociale et écologique qui fait que le capitalisme est un système qui, à mon avis, est historiquement condamné. Il y a eu d'autres formes. Alors, avec moi, à quoi ils auront droit ? À la planification écologique. Le compromis que je ferai avec eux, c'est que je leur propose de la visibilité.
Ah, il y a quand même l'idée du compromis.
François Fraisseau.
Mais moi, attendez, je le dis clairement. Si vous voulez la confiscation de toute la propriété, vous votez pour lutte ouvrière ou pour le NPA. Moi, j'ai jamais proposé ça. Je propose une économie mixte, une société de l'entraide qui mette à son sommet de la hiérarchie des normes la coopération, l'intérêt général, et la société à laquelle je rêve est la société de l'entraide. Voilà, en quelques mots, le projet politique que je défends, mais j'admets qu'il y en ait d'autres qui puissent le voir d'une manière plus radicale. Moi, je fais le pari qu'il y a moyen de moyenner et de faire un compromis, évidemment, où il faut un bon rapport de force, et le rapport de force, c'est moi.
Mais ce capitalisme, il est capable d'être raisonné de temps en temps, puisque vous appelez ça la preuve, hier, avec cet accord qui a été passé au G7, la possibilité de taxer d'au moins 15% les grandes multinationales. Est-ce que vous, je ne sais pas comment dire, est-ce que vous saluez Jean-Luc Mélenchon ?
Je ne sais pas pourquoi vous avez absolument besoin qu'on se réjouisse.
Est-ce que c'est un premier coup porté aux paradis fiscaux ?
On va voir quand ils vont le faire et comment. Le G7 est une honte en soi, parce que substituer aux Nations Unies un groupe de 7 pays qui décide entre eux ce que les autres vont faire, et puis ensuite le passe au G20, qui lui-même le passe au G je sais pas quoi, et puis en face vous avez le G160, qui sont tous les autres qui subissent et qui disent, mais enfin, au nom de quoi c'est vous qui décidez. Mais s'il y a une taxe mondiale sur le capital, attendez pas que j'aille critiquer ça, ou faire le maximaliste qui viendrait qui n'est jamais content de rien, mais très bien, mettez la main à la poche et prenez-en l'habitude, parce que dorénavant on va vous en prendre et chaque fois un peu plus. Pourquoi ? Parce que la civilisation humaine va devoir bifurquer. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Elle va devoir bifurquer. Pour ça, donc, il va falloir financer de gigantesques transformations. Bon. Et donc, toute la décision publique dépend de... Hier, j'étais dans une usine dans la vallée de la Romanche. Les gars, ils font du silicium. Le silicium, peu de gens connaissent ce nom, c'est le matériau de base de l'ère moderne. Vous collez les capteurs dessus, bref, la demande va être multipliée par 4. Cette boîte va fermer. La boîte d'à côté, pareil. Donc, si j'étais le président de la République, compte tenu non pas de mon intérêt pour le silicium, mais pour le fait qu'il faut qu'on puisse poser des capteurs photovoltaïques partout pour avoir le relais de l'énergie qu'on ne pourra pas toujours transporter parce que les câbles ne seront plus là, parce que les usines cesseront, la production cessera de fonctionner, on a besoin de tout ça. Bref, je réquisitionnerai. Mais pas par idéologie, je vous le redis, parce que vous aurez besoin d'électricité.
Mais vous êtes éloigné de la taxation des multinationales.
Était là parce qu'il a pensé à la suite.
Vous êtes éloigné de la question de la taxation des multinationales, et en l'occurrence des géants du numérique. Est-ce qu'il faudrait aussi trouver le moyen de taxer à 15% ou plus les très grandes entreprises françaises ?
C'est pas parce qu'elles sont françaises qu'elles cessent d'être humaines.
Pose la question.
Donc, elles doivent payer comme les autres. Bon, mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'on va... À partir du moment où vous-même vous en parlez, c'est tant mieux, ça fait progresser l'esprit public. Les gens vont commencer à se dire, pendant qu'on en est à faire payer tout le monde, on pourrait faire l'impôt universel que propose Monsieur Mélenchon sur les entreprises. Donc, les GAFA... Comme en France, on sait exactement combien ils vendent d'ordinateurs, combien ils vendent de leurs produits, d'accord ? On sait exactement. Pourquoi ? Parce qu'ils payent une TVA dessus. La TVA, c'est un peu plus compliqué de tricher avec ça. Donc, on sait combien... on va les taxer. On va leur dire, vous allez pas payer ce que vous avez envie de payer, vous allez payer ce que vous nous devez. Et vous nous devez plusieurs milliards. Et je vais pas aller les chercher parce que, comme m'a dit quelqu'un, vous autres, vous êtes jaloux des riches, c'est pas le sujet. J'ai besoin de sous pour faire tourner l'économie française et qu'elle réponde aux défis de l'écologie. Voilà, Monsieur Badou, pourquoi je me réjouis de cette taxe qui est naturellement... Commencez par payer, et la prochaine fois, on viendra vous en mettre davantage.
Et juste, on incise, le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'attend malgré tout à un combat très difficile au G20, et particulièrement avec la Chine. Nathalie Saint-Cricq,
revenons un tout petit peu à l'actualité française et au régional.
Particulièrement avec la Chine, ça tient pas debout, pourquoi cela? Mais il y a ceux-là et les autres. Personne n'est d'accord dans le monde capitaliste pour payer. Donc il faut forcer tout le monde. Vous n'avez pas le choix. Pardon.
Jean-Luc Mélenchon, vous déplorez, j'ai cru comprendre que vous déploriez qu'il y ait une focalisation sur les problèmes de sécurité dans cette campagne régionale. Quand on voit quand même le nombre de féminicides ou le nombre d'adolescents qui sont tués ou agressés, est-ce que vous ne sous-estimez pas les problèmes de sécurité et que cette sous-estimation risque de profiter au Rassemblement national?
Alors ça, c'est l'argumentaire de l'extrême droite. Ceux qui sont, de mon point de vue, c'est nous sous-estimons, question. Nous sommes dans le déni. À un moment donné, on m'a cassé les pieds avec islamo-gauchistes. On expliquait que la République était en danger parce que partout guettaient des islamo-gauchistes qui allaient se jeter avec la complicité de Mélenchon.
C'est tous les jours. Pardon, madame, j'essaye de vous répondre. Un fantasme.
Oui, non, mais c'est vous postulez quelque chose que vous affirmez tranquillement, à savoir que je sous-estimerais le danger.
Non, on vous pose la question.
Non, est-ce vous ne que posez vous pas la question. Vous ne la posez pas, Madame Le Pen. Pourtant, vous devriez. Je vais vous dire pourquoi.
Elle sous-estime
que
les questions de sécurité.
N'ont aucune conscience de la réalité des tâches policières. Voyez-vous, ma principale contradiction avec les organisations policières, à part qu'elles sont factieuses, à part qu'elles menacent les juges, à part qu'elles menacent les journalistes, à part qu'elles menacent les hommes politiques, c'est qu'elles ne tiennent pas compte de la réalité du métier de policier. Et voilà pourquoi, madame, je viens, vous mettez-vous dans l'insécurité, les féminicides. Ça, c'est un phénomène de première grandeur. Et c'est la raison pour laquelle nous devrions examiner pourquoi la technique policière ne permet pas d'y faire face. Parce que dans les cas que nous avons vus, à chaque fois, la femme s'était plainte avant, sa plainte n'a pas été entendue, et on l'a laissée aux mains de son bourreau. Donc ce qu'on va faire, c'est pas mettre en cause les policiers, on va mettre en cause la technique de la police qui fait que ça passe entre les gouttes. De même, quand on fait du tam-tam toute la journée sur la difficulté du métier de policier. Bon, personne ne va dire le contraire, on va dire que c'est un métier facile. Ça finit par insupporter tous les autres qui disent, ben écoutez, pardon, mais on meurt plus dans notre métier du bâtiment que dans la police. Il meurt 4 fois moins de policiers qu'autrefois. Ça veut donc dire quoi? Que la technique s'est améliorée. Il faut donc travailler à améliorer la technique. Ça, c'est le sujet. Le sujet, c'est pas de s'en prendre au juge en pensant que parce qu'on va mettre des peines éternelles et infinies, ça va dissuader les gens d'intervenir.
Voilà,
je termine en vous disant que non seulement je ne suis pas dans le déni, mais je suis, avec mes amis insoumis, les seuls qui proposent un plan concernant la manière de redéployer les moyens de la police d'une autre manière. On n'y répond pas seulement en disant « faut des policiers de plus ». Pourquoi faire ? Il faut donc d'abord dire pourquoi faire, il faut donc d'abord dire comment le faire, avec qui le faire. Nous avons besoin d'un plus haut niveau de formation des policiers, nous avons besoin d'une police judiciaire plus intense, nous avons besoin d'un renseignement pour les trafics qui comptent et dont on ne parle jamais. Trafic d'êtres humains, trafic de drogue, trafic d'armes. Là, nous avons besoin de repenser la façon de manier la police. Et en ce moment, on perd notre temps à discuter de sujets qui n'existent pas, comme celui que a posé les organisations policières qui ont obtenu l'autorisation miraculeuse de manifester devant l'Assemblée nationale pour crier leur haine de la justice le jour où on débattait d'une loi sur la justice. Ça, c'est de la perte de temps, c'est de l'opposition des Français entre eux, c'est des débats à la noix, ceux qui croient qu'il y a un problème, ceux qui croient qu'il n'y en a pas. Tout le monde sait qu'il y a un problème de violence dans les sociétés modernes. Est-ce qu'elle est plus intense qu'avant? Personne n'en sait rien, on mesurait pas avant. Mais on sait que ça existe. Et notamment, le développement des trafics d'êtres humains et de drogue déclenche une accélération de la violence dans toutes les sociétés. Nous le savons. Moi, j'ai été voir de près, dans certains pays, ce que ça donne, les cartels de la drogue. Chez nous, ça va commencer aussi, de la même manière.
Vous mettez souvent en cause les organisations policières, vous dénoncez les violences policières. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que la police française n'est pas républicaine ?
Oh, ça serait sans doute excessif, parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que nous avons un certain nombre de gens qui se comportent mal, qui sont violents, d'autres qui ont manifestement peur. Comment expliquez-vous que 32 fois quelqu'un ait été éborgné par un tir direct, sans que personne n'ait rien vu autour et soit capable de dire qui l'a fait ? Je ne dis pas pour en accuser celui qui a fait le tir. Qu'on est avec lui à discuter de sa responsabilité morale. parce que je n'ai pas été d'accord pour que soit condamné le gendarme qui a fait le tir qui a tué Rémi Fraisse. Mais qui a donné l'ordre? Qui a fait monter le ton comme ça? Qui a dit qu'il fallait nasser? Les chefs sont les premiers coupables. Les chefs. Et après, vous avez le gars qui, sur le terrain, bah, est pas capable de résister. Alors, je ne dirais pas qu'elle n'est... D'abord, parce qu'il y a quand même un nombre considérable de gens qui sont non seulement républicains de conviction, je veux dire, normalement, comme tout le monde, hein, mais qui le sont de manière militante. Il y a dans la police de très nombreux insoumis, j'ai le plaisir de vous en informer, et qui me renseignent, et qui me disent ce qui se passe, qui me disent le rôle des organisations policières sur le déroulement des carrières, sur les affectations, sur les jours de congé. Ils ont peur.
Vous seriez prêt à leur
organisations
parler
factuelles. Alors
prêt
la police doit être fondée de la cave au grenier.
Pardon. Vous seriez prêt à leur parler à l'ensemble des organisations policières ou avec certaines il n'y a pas de possibilité de dialogue?
Ah non mais je
Alliance
non,
mais... pour ne pas citer
non mais je dialogue
pour
pas
ne citer
avec
que
fascistes.
Cet exemple.
Non mais je pense que ça va. On sait ce qu'ils pensent, on sait ce qu'ils pensent de moi. Ils l'ont dit. Sont venus mettre le siège devant mon siège, je vois pas très bien ce qu'on aurait à se raconter. Mais rencontrer
mais ce n'est
des policiers...
pas abandonner le débat à d'autres, à vos opposants, je pense au Rassemblement National par exemple.
Bah, pourquoi pas, moi je suis prêt à parler avec tout le monde, hein. Et notamment de tâches policières, parce que je sais qu'ils n'y connaissent rien. Ils s'y sont pas vraiment intéressés, racontent des trucs qui tiennent pas debout. Tout le monde sait, alors on fait semblant de trouver ça intelligent. Alors il faut rallonger les peines, il faut être sûr qu'elles sont incompressibles. Vous avez même un gars dont vous demandez comment il a fait pour être le membre du parti de Jaurès, qui dit la police doit surveiller l'application des peines de justice. Mais où, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Mais malgré tout, Jean-Luc Mélenchon, c'est Olivier Faure.
Oui, c'est Olivier Faure, le secrétaire national du parti prétendument socialiste. Bon, qui a dit ça, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on raconte.
Anne Hidalgo et Yannick Jadot, qui sont au Rassemblement, aussi sont des néo-fascistes ou des gens...
Alors, je n'ai pas dit néo-fasciste, ni à propos de M. Faure, ni à propos de M. Jadot. C'est vous qui le dites, madame,
vous
c'est pas moi.
Vous avez parlé du syndicat
non,
Alliance tout à l'heure.
Je le précise, parce que on ne sait jamais, les gens pourraient vous croire.
Ouais.
Donc, je n'ai pas dit ça. Et je ne le dirai pas, parce qu'ils ne le sont pas. Je pense qu'ils ont commis une erreur extrêmement grave en cautionnant un rassemblement factieux. Et que, il n'y avait pas besoin d'être un aigle pour le savoir. Je ne suis pas plus intelligent que la moyenne. Mais quand on m'a dit, nous allons rendre un hommage aux policiers, à la policière tuée, fort bien. Pourquoi pas? Et moi, je me lève dans l'Assemblée nationale chaque fois qu'on me demande de faire un hommage pour un policier, c'est-à-dire à peu près chaque fois que ça se produit, ce qu'on ne fait pour aucune autre corporation, ni pompier, ni infirmier, parce que quand on a demandé une minute de silence ou de se lever pour les infirmières, on nous a refusé la chose. Donc, je sais de quoi je vous parle. Alors, donc, ces gens viennent, et ben, il faut faire comme moi. Vous regardez ce qui marque dans leur tract. Et dans leur tract, il n'était pas marqué hommage aux policiers. Il était la justice doit rendre des comptes. Et après, ils se sont déchaînés. Il y avait pas, il faut avoir un peu d'expérience humaine pour savoir que des fois, dans un meeting, il arrive qu'on en dise plus que ce qui est raisonnable, hein. Et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mmh. On peut se laisser emporter, bon. Donc, quand on voyait de quoi ils partaient, la justice doit rendre des comptes. Faut pas s'étonner qu'en cours de route, ils aient dit, si nous avons un bon rapport de force, on va passer au-delà de la Constitution et de la loi, la totale. Dans quel pays on accepte une chose pareille?
Mais quand on vous écoute parler, on se dit que, effectivement, les thèmes de la sécurité, les thèmes de l'identité sont très présents en ce moment dans le climat du pays. En 7 mois de campagne, quels sont les thèmes que vous avez réussi à imposer?
Ah, eh ben, écoutez, je pourrais...
Pour gagner, il faut réussir à imposer ses thèmes.
Oui, non, mais ça, madame, chacun fait comme il veut pour gagner. Hein, et moi, je ne ferai pas comme ça. D'accord? Je ne surferai pas sur les délires sur l'identité qui n'ont aucun sens, aucun, zéro. N'importe qui a fait 5 minutes d'études en classe de terminale, c'est que ça n'a pas de sens. Mais allons-y, parlons-en, puisque deux chaînes qui sont devenues, elles, maintenant, des espèces de déversoirs de la boue d'extrême droite, ils passent leur journée entière, accompagnés de toutes sortes d'illuminés qui viennent là du matin au soir, dont personne n'interroge la compétence pour parler de sociologie, d'anthropologie, etc. Mais ils ont un avis sur tous ces gens-là, et toujours le même avis, ethniciste, confessionnel et compagnie. Alors, pardon, je veux juste faire une parenthèse pour me moquer de tous ceux qui sont venus me saouler avec la laïcité toute l'année là avec cette loi sur le séparatisme, hein. Et alors qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils ont fini leur petit show d'extrême droite, qu'ils ont fini d'insulter les musulmans pendant des heures à l'Assemblée nationale, au détour d'un projet de loi de finances, ils votent un arrangement avec les religions qui passe si vous donnez des sous à une religion, jusqu'à présent, eh ben c'était 60% qui était retiré de vos impôts, ce qui est déjà un problème, mais maintenant c'est 70%. Alors, je salue l'Église catholique, je ne sais pas si c'est elle qui a passé pour faire la quête, mais elle, elle va gagner 67 millions dans cette histoire. Et alors, où sont passés tous ceux qui me faisaient des leçons de laïcité? Où ils sont à cette heure? C'est pour vous dire, madame, que les thèmes qu'ils inventent n'ont aucune consistance dans leur propre esprit. Alors, oui, nous parlerons de thèmes de sécurité, s'ils veulent qu'on parle de sécurité. Je me permets de rappeler que j'ai commencé ma saison par ça, en septembre dernier, un colloque sur la sécurité. Mais bon, voilà, je n'ai pas l'intention d'en faire davantage. Ce n'est pas pour moi le sujet central de l'élection. Le sujet central de l'élection, c'est qu'est-ce qu'on va faire face à l'aggravation brutale de la crise écologique, l'ère d'incertitude écologique dans laquelle on rentre, et deuxièmement, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à la catastrophe sociale qui s'avance, nonobstant les déclarations lénifiantes de Monsieur le maire. Ça, c'est des vrais sujets. Est-ce que vous aurez un boulot? Est-ce que vous aurez un toit sur la tête? Est-ce que quand vous allez ouvrir le robinet, il y a encore de l'eau? Pas de savoir c'est la couleur de peau du voisin et de la religion de la voisine du dessus. Enfin, tout ça est absurde. Ce peuple se traîne dans un débat qui n'a pas de sens.
Françoise Fressoz.
Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il y a deux gauches irréconciliables face au problème du régalien et de la sécurité?
Jean-Luc Mélenchon.
Oh, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire la gauche aujourd'hui? Personne n'en sait rien. Si vous demandez...
Vous êtes encore à gauche ou pas?
Moi, je suis un homme de gauche, je viens de la gauche, j'ai passé toute ma vie... et puis mes idéaux, tout le monde le voit bien. Mais moi, je ne demande pas qu'on me juge là-dessus. Je demande qu'on me juge sur ce que je propose, hein. Et puis après, bah, si les gens de droite trouvent que ce que je dis est bien, eh ben ils peuvent voter pour moi. Et s'il y a des gens de gauche qui trouvent que ce que je dis est pas bien, ils peuvent aller voter pour la droite. Voilà. Donc ça, c'est simple pour moi. C'est pas la question vraiment qui est posée. Dans votre question, comme souvent, il y en a deux. La première, c'est est-ce qu'il y a deux camps irréconciliables?
Mais on a l'impression.
Oui, oui, mais je vous comprends. Sur la question de la sécurité, mais commençons d'abord par cette formule, parce qu'elle a fait florès grâce à Monsieur Valls. Bon. Je sais que nous sommes séparés par des oppositions sérieuses et qu'on ne peut pas les nier. Nous ne sommes pas d'accord sur l'Europe, nous ne sommes pas d'accord sur le nucléaire, je ne vais pas faire toute la liste. Et la 6e République, puisque moi je propose de me faire élire, de passer à la 6e République et d'aller jeter les clés de l'Élysée dans la Seine. Hein. Bon, comme j'ai dit que j'allais le faire, je le ferai.
Donc pas d'irénisme, il y a des sujets
après,
qui divisent.
Après, que se passe-t-il? Pour gagner, il faut une majorité. Pour avoir une majorité... Il faut que se réalise dans les urnes l'union populaire, c'est-à-dire tous les gens qui sont d'accord avec un programme comme rétablir l'ISF, augmenter le SMIC, etc., etc., qui fait une écrasante majorité des Français. Donc il faut que dans un vote commun se réalise l'union populaire. C'est là que l'union de la gauche, ou de ce qui est appelé la gauche, fait obstacle à l'union populaire. Que voulez-vous que je vous dise? Après la manif du 19 mai, la manif des policiers factieux, le premier hashtag en tête, c'était « Plus jamais PS ». Comment voulez-vous que j'arrive? Ben, j'essaye de vous faire comprendre que si je me sautais dans les bras de M. Valls ou de M. Hollande, le monde dirait « Ceux-là sont des hypocrites ». Ce n'est pas vrai, ils ne peuvent pas se blairer. Mais... C'est vrai, nous sommes en désaccord sur tout. Donc, si vous voulez, il y a là deux gauches qui ne sont pas compatibles à un premier tour, mais dans un deuxième tour d'élection, puisqu'on vit dans ce monde-là, on ne va pas parler du monde idéal, ben, il faut qu'il y ait un vote commun. Alors, il y aura un vote commun, si je suis en tête, pour l'instant c'est moi qui suis en tête, du simple au double, hein. Je me permets juste de le dire, parce qu'on ne dit jamais qu'à gauche, pour l'instant, dans ce qui est considéré comme la gauche, il y a Mélenchon, 12-13, et puis il y a les autres.
Mais la fracture
6,
passe 6. Même avec le Parti communiste, il n'y a pas qu'avec François Hollande,
évidemment,
Olivier Faure et les
le
autres.
Parti communiste c'est un cas à part, ce sont... des alliés, des amis, des camarades depuis 2010. On a commencé ensemble quelque chose d'extraordinaire. Ils ont décidé, ils ont décidé dans leur structure dirigeante, c'est leur choix. Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise? Je vais pas les jeter de l'huile sur le feu. Non, c'est un crève-cœur pour moi.
Mais c'est un désaveu pour vous.
Mais pour moi, c'est un crève-cœur.
Vous allez marcher en commun, comme vous le dites, enfin, vous le rappelez, et là, ils disent non, on veut plus de Mélenchon.
Je sais pas s'ils disent on veut plus de Mélenchon, moi, c'est pas ça que j'ai compris. C'est vous qui êtes cruel avec moi. Ils disent qu'ils veulent à tout prix avoir un communiste. Alors, pour le Parti communiste, c'est leur affaire, ils ont bien le droit quand même. Je leur demande de réfléchir si le communisme est une étiquette ou un contenu. Et si le communisme est l'objectif d'une élection ou d'une révolution, et quand ils comptent la faire. Parce que dans les textes du congrès du Parti communiste, c'est même pas la révolution socialiste qui est annoncée, c'est la révolution citoyenne. La révolution citoyenne, c'est un thème que nous avons mis en commun en 2016 et en 2012. Donc je pense que nous nous retrouvons sur l'essentiel. Mais encore une fois, vous ne me ferez rien dire contre les communistes. Non, mais... Je me suis engueulé avec eux tant et plus. Mais ce sont mes camarades. C'est avec eux que j'ai construit tout ça. Ça leur appartient en tant qu'à moi. Puis vous savez, je finirai. Pas eux, on ne
veut
nos idées.
On ne veut pas vous faire dire du mal. Simplement, probablement, ce que Françoise voulait dire, je n'ai pas besoin de la traduire, c'est on a l'impression qu'en ce moment, vous vous en prenez presque plus à des gens qui ont toujours été à peu près vos alliés à gauche. Vous tapez beaucoup sur les verts en disant, je vous cite, que finalement, ils ont un avenir dès qu'on ne les a pas vus à l'œuvre. Peut-être vous faites allusion au maire, à ce qui s'est passé à Strasbourg, Bordeaux ou Poitiers, et les polémiques qui sont nées de là. Vous tapez également sur les socialistes. On a l'impression quand même que c'est votre première cible, et ça peut sembler étonnant, si vous considérez qu'il faut se rassembler au deuxième tour. Par ailleurs, deuxième question, et très rapide.
Attendez, c'est là, celle-là est en tissu de mensonges, donc on peut quand même commencer par dire des choses. Pardon, Madame Saint-Cric, mais vous n'êtes pas sérieux.
Pourquoi?
Vous ne traitez pas. Essayez de comprendre ce que je dis. Vous dites, vous tapez d'abord sur... Mais qu'est-ce que vous racontez? Écoutez-moi, madame. Est-ce que vous me permettez qu'on conteste votre brillante pensée? Alors je vais le faire.
Jean-Luc Mélenchon.
J'ai proposé, et nous avons... Écoutez, alors on peut répondre ou pas?
J'arbitre le débat.
Ali Badou.
Oui, mais j'aimerais juste vous ramener à la paix. Nous ne sommes pas des opposants. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous vous posons des questions, vous pouvez en discuter les termes et y répondre.
Voilà.
Mais ce que fait la question.
Mais vous non plus
vous
ne le prenez pas
question.
Mal. Mais j'ai le droit de dire qu'une affirmation est inexacte ou j'ai pas le droit. Non, mais si vous me le dites, je dirai plus. Si vous me dites, sur ce plateau, il est interdit de dire qu'un journaliste raconte des choses qui ne sont pas vraies, je ne le dirai plus. Donc, Madame Saint-Cric, vous avez parfaitement raison de dire que la France Insoumise a proposé à tous les partis dits de gauche une alliance dès le premier tour. Parce que dans les questions régionales ne sont pas incluses nos divergences nationales. Et que, en réponse à cela, personne n'en a voulu. Ce qui est une manière, comme vous en conviendrez, de accabler les autres formations, puisque je leur propose l'union. De même, je les ai accablés en proposant, nous les premiers insoumis, de faire une liste commune dans le Nord. Sous direction vert, parce que les verts ne supportent que eux comme tête de liste. Nous avons fait pareil dans PACA. Et en PACA, ils nous ont tout simplement jetés dehors, en disant aux potes vous. Voilà. Donc, vous voyez que si vous dites avec beaucoup de subtilité que je tape les autres, vous voudrez bien admettre que, dans les faits, ce sont les autres qui ont toujours refusé le rassemblement sur des bases sur lesquelles il était possible de le faire. Mon adversaire, ce ne sont pas les gens qui sont à la moitié du nombre de voix que je suis censé réunir dans les sondages. Mon adversaire, c'est la droite et l'extrême droite parce que je vais vous dire, le macronisme et l'extrême droite, qui sont deux variantes d'une même obsession, identitaire et financière. Et ça, c'est grave, parce que le pays est en train de rouler à l'abîme. Mon problème, ce n'est pas Olivier Faure, ce n'est pas Monsieur Jadot, c'est ce qu'est en train de faire Monsieur Macron, quand il a commencé à dire que Pétain était un grand stratège, que Maurras était un brillant intellectuel, alors que ce sont deux antisémites traites à la patrie. C'est Madame Le Pen que... par un concours de circonstances, l'ensemble de la sphère médiatique a dédiabolisé, pendant qu'on me diabolisait moi à mort, et qui maintenant est aux portes du pouvoir. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On vient encore trier dans mes cheveux pour savoir s'il n'y a pas ici ou là une raison d'être en désaccord avec
Mélenchon,
les autres.
Parce que pour le coup, vous parlez d'une même obsession, celle du macronisme et du Rassemblement National, et lorsque vous parlez de Marine Le Pen aux portes du pouvoir... C'est comme ça que vous percevez la situation politique.
Mais c'est ce que tout le monde voit. Quand je dis une obsession commune, ben je vous rappelle que nous avons vu sur le plateau de France 2, on était en plein débat sur le séparatisme, qu'est-ce qu'on a mis en scène? Une opposition, soi-disant, entre M. Darmanin et Mme Le Pen, comme si c'était ça le débat en France, et que ça s'est terminé par M. Darmanin disant à Mme Le Pen, vous êtes trop molle. Et elle lui disant, j'aurais pu signer votre livre. Donc ça montre, pardon, je ne crois pas solliciter trop les faits en disant que les deux ont pointé plus que des accointances. On en était au niveau des surenchères. Pendant ce temps-là, j'étais chez M. Hanouna où l'on me donnait la parole pour expliquer le contraire de ce que racontaient ces gens.
Mais c'était pour parler de la situation et des rapports de force politiques. Françoise Fressos et puis votre portrait par Karine Becker,
Jean-Luc Mélenchon. C'est juste votre regard sur...
Ah, ça va être cruel le portrait, je sens ça.
Mais votre regard ce qui s'est passé sous ce quinquennat.
N'ayez pas peur. Mais j'essaye.
Vous étiez, souvenez-vous, vous étiez en 2017, vous revendiquiez le fait de vouloir devenir le premier opposant à Macron. Là, la réalité, c'est que c'est Marine Le Pen qui l'est restée. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce quinquennat pour que vous échouiez alors que vous aviez fait la question sociale oui. dans le premier de vos revendications.
Mais vous savez, Madame Fressoz, d'abord, j'ai rien revendiqué du tout. Certainement pas le concours à ce podium absurde qu'ont inventé. Je sais qui, pour dire le premier opposant, le deuxième, enfin.
Alors c'est maintenant. C'est vous, hein, qui l'aviez, qui
non, l'aviez revendiqué. Non. J'ai dit que j'étais un opposant, mais je n'ai pas réclamé la première place. Pourquoi? Parce que je suis instruit par l'histoire. Vous savez, Madame Fressoz, sur deux siècles, on a gagné. Trois, quatre, cinq fois. Donc, ma famille politique est habituée à ramer beaucoup et à être une sorte de présence qui maintient un autre idéal en face d'une société de brutalité, d'exploitation. Ben, nous, on représente l'autre camp. Ceux qui disent, il faut partager, il faut avoir le souci des autres. Alors maintenant, on y rajoute le souci des animaux. Donc, je suis assez expérimenté sur le plan historique pour savoir que, comme disait Jaurès, il faut agir sans se demander si on sera récompensé. Et Jaurès rajoute en disant...
Mais vous ne répondez pas à ma question. Qu'est-ce qui fait qu'au fond, Marine Le Pen a conforté, alors qu'elle avait fait un débat désastreux en 2017, qu'elle a conforté
Je
ne
peux pas vous
place.
Répondre, Madame Fressoz, parce que vous allez mal le prendre.
Dites.
Alors, je ne voudrais pas vous vexer, on est dimanche, ça m'ennuierait beaucoup. Et si passait que M. Macron a gagné avec l'appui de toute l'oligarchie française, qui possède 90% des médias, et que ensuite il y a eu une vaste opération de dédiabolisation de Madame Le Pen et de banalisation des thèmes qu'elle porte, qui continue tous les jours sur certaines chaînes d'information en continu. Quand du matin au soir, si au lieu de parler, ce qui a son importance, de tel ou tel fait divers, on mettait par exemple en avant les 170 employés du bâtiment qui meurent, en se disant « mais comment se fait-il que le travail tue ?» Si on mettait les pompiers, etc. Peut-être que vous verriez alors toute la France se dire « Mais bon sang, il y a un problème social dans ce pays. » Si vous montriez les 300 000 personnes qui n'ont plus d'eau, ou les 200 000 qui n'ont plus d'électricité.
Donc il y a une responsabilité médiatique.
Les 200 000, les milliers qu'on se prépare à mettre dehors. Alors à ce moment-là, vous verriez tout le pays dirait « Mais enfin, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? On est si riche. »
Mais la responsabilité médiatique n'est pas déterminante en dernière instance pour expliquer la situation politique.
Mais ne dites pas des choses qui ne sont pas, monsieur.
Non, mais je vous pose une question.
Avant, c'est une question.
J'ai mis un point d'interrogation à la fin.
Moi, j'ai cru que c'est une affirmation. Alors donc, je retire. Mais je vais vous dire, depuis que l'homme est homme, les êtres humains, eh bien, les représentations, le discours, structurent la pensée. Par exemple, dans les grottes de Lascaux, ça structurait quelque chose. On ne sait pas quoi, mais ça le structurait. Et donc, depuis toujours, par exemple, pendant des siècles, le prêche du dimanche structurait la pensée des gens qui étaient là, qui avaient la foi et qui écoutaient les consignes politiques. Donc, aujourd'hui, on regarde la télé. Et du matin au soir, et d'évider un discours dominant
d'après lequel
il n'y a rien au-dessus de la propriété
privée,
il n'y a rien au-dessus de la flexibilité, et que le vrai problème de tous les jours, c'est l'islamo-gauchisme.
Non.
Alors après, étonnez-vous qu'il y a des gens qui finissent par le croire.
Mais attendez, les réseaux sociaux sont quelquefois, et d'ailleurs vous les utilisez largement, vous savez très bien qu'il n'y a plus la messe du 20h et que quand les journalistes disent quelque chose, les gens obéissent. Ça n'a jamais été le cas.
Ça n'a pas été le cas, mais pas grâce à vous. C'est grâce au travail militant qui a été fait. Mais quand vous dites les gens, mais jamais les gens n'ont écouté et mis aux ordres, c'est pas comme ça que ça se passe. La domination ne se crée pas de cette manière-là. Il y a que vous pour croire ça. On n'est pas dans une rédaction où on donne des ordres. On est dans une société où vous avez de la pub partout qui vous donne des conseils pour être beau, pour être intelligent, pour être ceci, pour être cela. Vous avez des médias qui vous disent, le grand problème aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sauf si vous êtes dans le déni, le vrai problème, c'est la sécurité.
Mais j'ai jamais dit
Oubliez, madame, monsieur, que vous n'avez plus de sous pour payer votre appartement. Oubliez que vous n'avez plus de boulot. Oubliez que votre pays est en train de dévaler la pente.
Vous décrivez, fabrication de l'idéologie dominante, mais on peut aussi penser qu'un citoyen n'est pas passif et forcément passif devant son écran.
Absolument.
Et qu'on a une capacité critique. Et c'est ce qui fait que l'on peut, échanger et qu'on peut aussi, du coup, se faire une idée.
Monsieur Badou. Et puis en plus, je vais vous dire
lorsque nous allons voter.
Monsieur Badou, je m'incline. Moi, je suis pas un démocrate les jours de fête ou les jours où je gagne, parce que comme on perd le plus souvent, le plus difficile en démocratie, c'est d'accepter de perdre. Alors pour ça, c'est nous les records. Je m'incline. Si les Français veulent maltraiter les musulmans du pays, montrer du doigt les pauvres, dire des chômeurs qui sont responsables de leur chômage, eh ben ils ont qu'à voter pour Monsieur Macron et Madame Le Pen. Mais s'ils se disent bon sang, il y a peut-être moyen de faire autrement, alors ils votent pour moi.
Le président du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale et député des Bouches-du-Rhône, Jean-Luc Mélenchon, est l'invité de Questions politiques jusqu'à 13h.
France Inter, Ali Badou, Questions politiques.
Vous allez pouvoir souffler, Jean-Luc Mélenchon. Karine Bécart a préparé
votre
portrait
Je vais recevoir une purge giclée
de venin. Mais non, respirez, tout va bien se passer.
J'essaye de vous pressionner avant le passage à l'acte.
Alors, ce n'est pas si facile de condenser 44 ans d'un parcours politique, vous en conviendrez.
Ah non, je ne vous permets pas. 50, j'ai commencé à 15 ans.
Alors,
j'en ai 70, donc ne réduisez pas mes mérites, je vous prie.
Je suis le casque bleu de cette émission. Respectez les règles, car il fait son portrait.
En plus, c'est nul en calcul mental.
Et vous pourrez y répondre.
50, ça fait pas 70.
Et vous pourrez y répondre, vous aurez toute liberté d'y répondre.
Non, je réponds pas, c'est trop bien.
Alors, j'avais noté 44 ans parce que pour moi, tout avait commencé pour vous, Jean-Luc Mélenchon, à seulement 26 ans quand vous vous décidez d'adhérer au PS. C'était en 1977.
Mais j'étais trotskiste avant, j'ai été enfant de cœur, j'ai milité à l'âge de 15 ans.
Redoutable endurance, de toute façon, pour celui dont on a souvent oublié qu'il avait été sénateur. Vous l'êtes resté pendant presque 20 ans, pourtant, ministre aussi, certes beaucoup moins longtemps, ministre à l'enseignement professionnel, nommé par Lionel Jospin, l'ancien copain, le trotskiste lambertiste, exactement comme vous. Alors fallait-il, à 66 ans, que vous vous lanciez dans un mandat de député au printemps 2017? Après votre deuxième campagne présidentielle, vous étiez assez tenté de rester au-dessus de la mêlée, et puis vos troupes vous ont un peu poussé et vous vous êtes laissé tenter.
C'est un moment très important pour moi. Parce que une élection comme celle-là, on y met beaucoup de choses. Et quand Marseille ait dit oui, et avec autant de force, et c'est un événement pour moi dans ma vie politique et dans ma vie affective et l'homme que je suis. Quoi. Voilà. Ici, je suis chez moi quand même. Hein.
Ça y est, vous êtes chez vous.
La même meuble à Marseillais, hein, non?
Élu à Marseille, précisément là où le jeune pied noir que vous étiez a débarqué quand vous avez quitté le Maroc, où vous avez passé vos 11 premières années. Bref, important Marseille, mais il était surtout important pour vous, l'insoumis Mélenchon, de vous afficher comme le premier opposant à Emmanuel Macron. Et c'est ce qui s'est médiatiquement passé dès votre arrivée à l'Assemblée, dès les premiers textes qui ont été votés. Face au jeune président libéral, vous êtes apparu comme l'inépuisable défenseur social.
Le 23 septembre prochain, il faut que le peuple déferle à Paris contre le coup d'État social, contre le coup d'État antidémocratique qui s'organise contre lui.
Sauf que cela n'a pas du tout marché. La déferlante, la fête à Macron, les appels à manifester. Vous n'êtes jamais parvenu, Jean-Luc Mélenchon, à massivement mobiliser. Vous y avez mis beaucoup d'énergie, mais les Français ne vous ont pas suivi. Voilà comment vous avez perdu au milieu du quinquennat votre statut d'opposant dominant, ce qui ne vous empêche pas de rester un tribun flamboyant. Mâchoire serrée, vous êtes un des rares encore capables d'enflammer l'Assemblée, mais jamais le bruit et la fureur de vos 17 députés n'ont permis de faire reculer vraiment ce gouvernement. Alors qu'allez-vous faire maintenant, Jean-Luc Mélenchon? Vous vous êtes lancé à bientôt 70 ans dans une troisième campagne présidentielle en tacticien, ce qui est très mitterrandien. Vous placez le président Macron définitivement à droite de l'échiquier politique. Il n'empêche, que vous le vouliez ou non, les Français majoritairement le perçoivent toujours comme un progressiste.
Réaction, Jean-Luc Mélenchon?
C'est toujours sympa d'écouter un portrait. sur quoi me suis-je trompé? Sur pas mal de choses, comme tout être humain.
Mais oui.
Notamment dans ma relation à Marseille, je savais pas bien, par rapport à Marseille, ce que je pourrais faire. Finalement, j'ai fait le plus raisonnable, j'ai fait le président de groupe, et je me suis pas mêlé de la vie politique locale, ou très peu, parce qu'ils vivent sans moi, ils ont pas besoin de moi. Et j'ai presque l'impression qu'ils me l'ont dit. Donc, je suis le dernier arrivé, je me tiens tranquille. Pour le reste, à l'Assemblée, je fais mon boulot d'opposant et de président de groupe. Ça a été pour moi un moment de bonheur que vous n'imaginez pas, parce que ma vie politique est longue, et j'ai dû attendre longtemps d'être récompensé par la possibilité d'agir en meute à 17. Ce sont des gens flamboyants, et je suis certain que dorénavant, la force politique que nous avons enfanté et pérenne avec des femmes et des hommes d'une puissance formidable. Quant à moi, j'ai affronté un adversaire. Il ne faut pas regarder que mes talents. Il faut aussi regarder ceux de l'adversaire. Il a été plus fort que moi. Par exemple, quand il fait son coup d'État social, il renverse tout le code du travail, il ne se passe rien. Il n'y a que moi pour, avec le groupe des Insoumis, protester, appeler à une marche. On a même fait une marche. Et alors, assez habilement, tout un système s'est mis en place pour dire « Ah, Mélenchon, non seulement il veut être le chef de la gauche, mais en plus des syndicats. » Et il y a eu des dirigeants syndicalistes assez ballots pour tomber dans le piège et dire oui, oui, c'est nous qui nous en occupons. Ils s'en sont d'ailleurs occupés avec le brio qu'on a pu voir, c'est-à-dire que tout est passé. Alors, en effet, c'est un échec. J'en ai tiré une leçon. Il faut une convergence des forces politiques et sociales. Et c'est le cas de ce que, ici même, j'ai essayé de bâtir en la dernière fois que vous m'avez invité. Oui. Je vous ai dit, je voudrais une grande marche pour les libertés, je voudrais qu'on se mobilise, et des gens ont pris l'idée au vol, notamment pour ce qui concerne les insoumis, mais il n'est pas le seul, Éric Coquerel, le député
de Saint-Denis,
qui a réussi une chose extraordinaire, c'est que, avec les autres, 92 organisations, il y a déjà plus de 60 manifestations prévues. Que voulez-vous que je vous dise? Il faut recommencer, et toujours recommencer, et puis un jour ou l'autre, les circonstances finissent par rejoindre votre projet, et alors l'histoire s'écrit. Mais je ne serai pas le premier à être dans cette situation. Regardez bien, tous ceux qui ont fait des grandes choses ont souvent commencé par un long chemin, pénible à mener, et sont arrivés couverts de cicatrices. Pour ce qui est des cicatrices, je suis bien placé.
En l'occurrence, est-ce que vous pensez que la mobilisation sera là lorsque le gouvernement, comme il l'a prévu, reprendra ses réformes? Il y a les plans de relance, évidemment, mais il y aura aussi à un moment la fin du « quoi qu'il en coûte », l'État-providence qui a protégé beaucoup de Français, peut-être pas assez, mais qui en a protégé beaucoup, qui a aidé des entreprises à traverser la crise. Ce temps-là va peut-être arrivé à un terme. Il y a le projet sur les retraites qui va être discuté. Il y a la question de la réforme de l'assurance maladie. Vous pensez que la mobilisation sociale est à venir?
Je ne sais pas. J'ai assez vécu pour avoir entendu annoncer je ne sais combien de printemps chauds et de rentrées encore plus chaudes et qui ne se sont pas produits. Donc je me contente d'essayer. Et puis après, bah, advienne que pourra. Si ils en veulent, bah, ça se fera. S'ils en veulent pas, bah, ça se fera pas. Ce qui est certain, c'est que vous inquiétez pas. On va arriver un jour ou l'autre à parler d'autre chose que de musulmans et de sécurité, et on finira par parler de la politique de M. Macron. Et on dira qu'il a signé un papier qui est son programme pour la fin de son mandat et le suivant. Il a signé un papier. Il a écrit à la Commission européenne, oui, nous allons revenir aux 3% de déficit, oui, nous n'aurons pas plus de...
Vous avez vu le papier ?
Etc. Il a signé le papier. Le plan d'austérité le plus terrible dont on n'ait jamais entendu parler en France.
D'ailleurs, donc il y aura une réforme des retraites, alors, lui, à vous entendre parler.
La réforme des retraites, il a déjà signé 3 fois pour ça. Donc il va la faire. Peut-être pas juste là, mais il se dit, je vais peut-être essayer le coup d'après, comme ça, ça fera bien, et j'aurai un argument. Bon, les gens choisiront en connaissance de cause. Et d'ailleurs, lui, il est moins béat que beaucoup de ses commentateurs, hein, parce qu'il a dit dans le Lot, là, il est allé, vous savez, à peu près à 50 km de l'endroit où j'étais la semaine d'avant, et il a dit, j'aurai des décisions difficiles, peut-être que je pourrais pas me représenter, etc. Ah, par pitié, représentez-vous, parce que lui, on aura de quoi dire. Si on nous en ramène
par
encore
pitié,
un autre...
Par représentez-vous.
Mais écoutez, moi j'espère qu'il se présente, vous parce que celui-là, il aura un bilan, pourra dire, ben voilà ce que vous êtes capable de faire, et puis voilà ce que vous avez prévu de faire. Tandis que sinon, on nous en sort un autre du chapeau, un autre petit Macron, qui est là, bon, tous les autres sont allés souffler dans les voiles pour parler des voiles. Et puis, bon, tout d'un coup, ça vous fait un type, on ne sait pas qui c'est, pouf, qui
mais vous
fait
pensez à qui,
il reste très peu de temps, Françoise Fressoz.
Vous pensez à qui, là?
Ben, je ne le sais pas, mais c'est le système qu'il invente la dernière fois. Macron, il est arrivé au dernier moment. Là, ils vont peut-être en trouver un autre. Mais à chaque fois, ils en trouvent un. Dans tous les pays du monde, parce que voyez-vous, la différence avec d'autres, c'est que je voyage et je regarde. Dans tous les pays du monde, on a élu des petits Macrons. Ils s'appelaient Macri. En Argentine, c'était un comédien en Uruguay, c'était en Ukraine un type qui jouait dans une série de télévision. Dans tous les pays du monde, ils ont inventé un type comme ça, qui sortait de rien et qui était porté par un système oligarchique. Eh bien, nous aurons... ils sont capables de refaire...
On ne va pas revenir sur le mot système.
En ce moment, il y a plein de gens qui disent « Mélenchon pense comme moi ». Ben oui, bien sûr, on les a vus à l'œuvre. De même que vous verrez, pardon, je termine là-dessus, vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors, ça a été ou un meurtre, ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées. Vous vous rappelez de tout ça? C'était la dernière semaine. Avant, on avait eu Papivoise, dont plus personne n'a jamais entendu parler avant, après. Donc, tout ça, c'est écrit d'avance.
Et
nous aurons
ce sont les
le petit personnage sorti du chapeau, nous aurons l'événement gravissime qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile. Voilà, c'est bateau tout ça.
Il reste très peu de temps.
Juste une question, parce qu'il y a le débat Nathalie sur le Front républicain est-il mort? C'est-à-dire qu'on entend depuis 15 jours des gens qui disent finalement ça n'a pas de sens. Je voulais savoir, un, si vous considériez effectivement qu'il était mort, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de barrage au Rassemblement national, Et deuxièmement, et j'ai été interpellée par l'interview de Clémentine Autain au Point, qui dit « Macron ressemble à Daladier, il est devenu une passerelle vers le néofascisme », laissant entendre en gros que Macron, Le Pen, tout ça, c'était la même bande.
Alors, c'est une interview très brillante, parce que Clémentine Autain est quelqu'un de très brillant, qui est appuyé sur une culture historique, qui lui permet de parler et de dire des choses en voyant des relations. Je pense qu'elle se réfère à un livre qu'elle m'a recommandé, qui nous a impressionnés tous les deux. C'est celui qui s'appelle qui raconte que 1938 est en train de se reproduire. Et j'en demande pardon au philosophe qui l'a écrit, je me rappelle.
Michael Fessel, le livre, c'est récidive.
Voilà, c'est un excellent bouquin et Clémentine me l'a recommandé à plusieurs reprises. J'ai commencé à le lire. Et voilà ce qu'elle veut dire. En effet, il y a un glissement. C'est toujours la même chose. Ces gens-là se croient plus malins que tout le monde. Ils disent oui, ben moi je vais récupérer l'électorat fasciste en parlant comme eux. Et à la fin, bah non, ils récupèrent rien du tout. Et c'est la
comparaison avec Daladier et le chef du gouvernement qui a signé les accords de Munich. C'est une comparaison audacieuse. On n'est pas loin du point Godwin.
Oui, le point Godwin, pour que les gens qui le savent pas, c'est la manière de couer le bec à tous ceux qui veulent comparer la situation d'aujourd'hui avec celle des années 30. Alors on dit, ça fait chic, les gens, le temps qu'ils réfléchissent à qui peut bien être Godwin. Et qu'est-ce qu'il veut?
Godwin est un avocat et il dit, on tue la conversation quand on compare quelqu'un à Hitler.
On a le droit de faire une comparaison sans avoir à subir les foudres de la claricature.
Non, mais la question, c'était quand même le Front
républicain.
Non, mais
attendez, il m'évoque Daladier. Daladier était un homme qui avait une posture dans la société française, qui passait pour un miraculé de la politique, un petit génie. Il a fini comme un collabo, et il a été fusillé, ou je sais pas quoi, mais en tout cas, il le méritait.
Non.
On lui a piqué sa flotte, d'ailleurs.
Il n'a pas été fusillé.
Bon, on va pas y passer non plus.
Non, mais c'est vous qui m'avez interrogé.
Non, mais la question, c'était la question du Front républicain.
Est-ce que c'est Macron, Le Pen, même combat, on n'en veut pas, le Front républicain?
D'abord, acceptez de vous faire à l'idée que nous sommes plus subtils que les caricatures que vous faites.
Je ne fais pas ça, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour reposer la question.
Nous ne disons pas que c'est la même chose. Et Clémentine Autain ne dit pas ça. Elle dit qu'il fonctionne comme une passerelle. J'aurais aimé vous entendre dire quelque chose à propos de cette interview dans l'Express, où un président de la République française, qui est une république rescapée de la collaboration et de la défaite des nazis, a osé dire que Philippe Pétain était un grand stratège et Maurras un grand intellectuel.
Du Pétain de la guerre de
Ce sont
14,
deux traîtres à la patrie. Et oui, mais c'est le président de la République qui l'a fait. Il y a des choses qu'on ne dit pas quand on est français. On ne le dit pas quand on est président de la République que Pétain était un grand stratège. Non, c'est un traître.
Sur le Front républicain. Sur le Front républicain, c'est quoi le rapport avec Pétain?
Mais alors, écoutez, vous m'avez interrogé sur le sens des propos de Clémentine Autain. Je vous dis qu'elle a décrit un processus et qu'elle a raison de le faire parce que c'est ça que nous avons sous les yeux. Si vous avez suivi, je suis sûr que vous l'avez fait, le débat à l'Assemblée nationale sur le séparatisme, vous avez entendu pendant 10 jours agonir d'injures les musulmans sans que aucune de ces grandes personnes n'ait dit maintenant ça suffit, on arrête. Au contraire, sur votre plateau et à votre invitation, quelqu'un est venu dire à madame Le Pen, vous êtes trop molle.
Ouais. Alors, en 2002, donc,
on va terminer quand même avec
On parle jamais de Macron ici.
On ne parle jamais de Macron?
Vous avez parlé de lui,
on en a parlé, je ne m'en rends pas compte.
Si, si, vous, le temps vous, passe vous en avez parlé.
En 2002, en tout cas,
et d'ailleurs, l'émission
fait...
se termine dans une minute.
Une minute?
Eh oui, le temps passe vite, Jean-Luc Mélenchon, et votre compagnie.
Donc, je peux...
Bah, très rapidement,
2002,
et du coup, une réponse rapide de Jean-Luc Mélenchon.
En 2002, face à Lionel Jospin, enfin Lionel Jospin un père, et vous aviez clairement appelé au Front républicain à voter pour Jacques Chirac. Vous ferez la même chose ou pas? Est-ce que en cas de...
Non, non.
Donc le Front républicain n'existe plus?
Non, mais je préfère le dire, vous avez raison de me poser la question. Je ferai comme la dernière fois. La dernière fois, j'ai dit, il ne faut pas voter pour l'extrême droite. Les gens me disent, c'est compliqué, deux candidats, il ne faut pas voter pour l'un. Il faut quand même réfléchir. Alors, voilà.
J'irai
pas
plus loin.
Attendez, j'ai fait autre chose. Parce qu'à chaque fois, on me dit, vous n'avez pas voulu trancher. Ce n'est pas vrai. Nous avons ouvert un site et on a dit à nos amis, votez. Abstention, Macron, l'un ou l'autre. Alors, il y en a qui ont été votés Mélenchon au deuxième tour. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que aucune consigne n'aurait été suivie. Je veux bien mourir pour vous, hein, mais pas tant que ça. Donc, je dirai, la prochaine fois, si c'est le cas, et ce ne sera pas le cas parce que c'est moi qui y serai, et comme ça, la question sera réglée. Mais...
L'émission se termine.
Eh bien, voilà. Si la question se pose là pour les régionales, nous dirons aux gens, méritez les votes du deuxième tour. Et nous dirons à nos amis, à votre avis, que comptez-vous faire? Mais ne me demandez pas d'aller appeler à voter pour des gens qui ensuite vont nous arracher les cheveux et la peau. Non, je ne le ferai pas.
Et nous sommes libres, libres.
Mais
de
oui, tous, moi j'ai été voté. C'est la saurais jamais quoi.
Merci infiniment.
J'ai été voté, j'ai mis un bulletin de vote, devinez.
L'émission se termine. Député du Peuple Humain est publié chez Robert Laffont. Merci d'avoir été notre invité. Merci
c'est
à tous les trois.
Moi qui vous remercie de m'avoir
merci
invité
à vous
alors que c'est craignos.
De nous avoir
même,
suivis. Ça n'a rien de craignos, c'était au contraire un bonheur de vous entendre.
Merci monsieur Vadou, je voulais que ça soit dit avant que je m'en aille.
C'est dimanche, il fait beau Jean-Luc Mélenchon et les terrasses sont ouvertes.
Oui. Et le lait fraise a gagné dans une compétition avec la bière.
À dimanche prochain.